Thème au pluriel, qui révèle la mosaïque des sentiments liés à la perte d'un être cher. Une procession des corps rythmée par des musiques très variées, de Mozart à des créations sonores contemporaines. D'un geste sensible et vibrant, il fait du Requiem une célébration de la vie où toute notre humanité prend corps dans un rituel de mémoire saisissant. Requiem d'Angelin Preljocage, un spectacle France Inter.
Merci d'écouter Inter, bon réveil et bienvenue si vous nous rejoignez les 8h. Le journal. Corinne Audouin, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, Corinne, la Moselle est sous l'eau.
Le département est repassé en vigilance rouge au cru. Autant de pluie en si peu de temps. C'est du jamais vu depuis quasiment 30 ans. On retrouve notre journaliste sur place dans un instant. Dans l'actualité aussi, nuit plutôt calme en Nouvelle-Calédonie, où 1000 policiers et gendarmes ont été envoyés en renfort. Une mission supplémentaire qui pèse sur des forces de l'ordre déjà très sollicitées. Nous serons à Cannes, où l'on entre dans le dur de la compétition. Trois films présentés hier, notre envoyé spécial Alexis Demeyer nous dira lequel a ses préférences. Et puis le sacre des Lyonnaises, championne de France de football pour la 17e fois, c'est au menu du journal des sports de Jérôme Val. Avant votre invité à 8h20, Ali et Marion.
Un homme à la parole rare qui porte la voix de près de 5 millions de réfugiés palestiniens, mais dont l'organisme est aussi très critiqué.
L'invité de France Inter ce matin est Philippe Lazzarini, qui est commissaire général de l'UNRWA, cet office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine et dans le Proche-Orient. Il sera notre invité donc dans le grand entretien.
France Inter. La Moselle repasse dans le rouge. L'alerte au cru est maximale ce matin, prévient Météo France. Le niveau de l'eau de la Niée devrait continuer à monter dans les prochaines 24 heures. Il est tombé en une journée l'équivalent d'un mois de pluie. On retrouve à Circles-les-Bains, près de la frontière allemande, Natacha Cadur de France Bleu Lorraine Nord. Bonjour.
Bonjour.
C'est le retour au calme ce matin, mais la nuit a été courte, Natacha.
Oui, puisque le ruisseau de Montenac qui traverse le village a débordé hier avec un débit assez important en arrachant des arbres et un petit pont en pierre. Il est sorti de son lit pour aller inonder le rez-de-chaussée ou les caves d'une dizaine de maisons dans le centre-ville, celles qui sont de part et d'autre du cours d'eau. Ses habitants ont été évacués, ils ont passé la nuit chez des proches ou d'autres habitants, une trentaine de personnes en tout. Et l'on a craint que l'eau ne fasse céder un autre pont plus important sous lequel elle passe dans le centre-ville avant de rejoindre la Moselle. La rivière Moselle qui est surveillée également ce matin puisque l'on reste en vigilance rouge au cru après les pluies dans le département. Des portes anti-crues ont été relevées ici hier soir par précaution pour éviter que les deux cours d'eau ne se rejoignent. Ce matin, c'est un appel aux volontaires qui est lancé pour venir nettoyer les rues principales de la boue et bien sûr les maisons qui ont été touchées dans l'espoir que le niveau de tous les cours d'eau reste stable.
Merci Natacha Cadur de France Bleu, Lorraine Nord. Alors justement, à quoi faut-il s'attendre dans les heures à venir en termes de décrue ? Écoutez le préfet de Moselle, Laurent Touvet.
Ça dépend des endroits. En aval, le pic a été atteint vers 6h ce matin. La décrue a commencé. Plus en amont, on sent que l'eau monte encore. Donc tout ça risque de varier au cours de la journée. Ce qu'on constate, ce sont des mouvements très exceptionnels et très brutaux. À Bouzonville, par exemple, hier soir, la décrue a été soudaine, brutale, ce qui montre bien l'accumulation extraordinaire de quantité d'eau qui s'est abattue sur ces communes. Et ses villages.
Le préfet de Moselle, invité de France Bleu Lorraine Nord, pas de morts ni de blessés à déplorer à ce stade et 1000 sapeurs-pompiers restent à pied d'œuvre. Côté allemand aussi, les rivières débordent dans la région frontalière de la Sarre. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées et une centrale électrique arrêtée après la rupture d'une digue.
En Nouvelle-Calédonie, la nuit a été relativement calme.
6 jours après le début des émeutes sur l'archipel français, déclenchées par une réforme constitutionnelle sur le corps électoral, qui fait craindre aux indépendantistes une dilution des voix de la population kanak. Certains quartiers de la capitale Nouméa sont toujours aux mains des émeutiers. Une école et deux entreprises ont été incendiées. Les autorités saluent cependant une situation globalement plus calme. Un millier de policiers et gendarmes supplémentaires ont été envoyés sur place. Une mission de plus pour des effectifs déjà très sollicités en métropole, notamment en vue des Jeux Olympiques et dans les rangs. Ça commence à tirer, Ariane Grissel.
Les policiers et les gendarmes sont habitués à vivre au rythme des imprévus, mais cette année, ils savent déjà qu'ils n'auront pas de congé pendant les Jeux Olympiques, d'où l'inquiétude dans leur rang face à la multiplication des sollicitations en amont, surtout s'il faut s'attendre à des missions aussi compliquées que la Nouvelle-Calédonie.
C'est l'enfer, on est au bord du chaos.
Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance.
Et puis, on ne sait pas si fin juin, début juillet, il n'y aura pas d'autres impondérables. On rappelle également qu'il y a deux surveillants de prison qui sont fait abattre froidement par un commando. Il y a 350 policiers qui travaillent sur cette affaire. Tout ça, ça rajoute du travail au travail quotidien, au travail que nous procure aussi la flamme olympique. C'est 115 policiers à l'instant T.
Attention à l'état de santé des collègues, met en garde Didier Rendu, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, le SCSI, pour qui une prime JO est d'autant plus justifiée.
Des négociations sont encore en cours pour s'assurer qu'effectivement les compensations financières soient à la hauteur des engagements de nos collègues. Parce qu'à côté de ça, il y a des festivals dans différentes villes de France cet été, la sécurisation des zones touristiques, le Tour de France, les cérémonies commémoratives des débarquements.
La Nouvelle-Calédonie aurait dû être anticipée, regrette un gradé des forces de l'ordre qui rappelle qu'en 2021, 1500 policiers et gendarmes ont été envoyés sur place avant le troisième référendum.
Les syndicats de surveillants pénitentiaires appellent à lever le blocage des prisons après l'attaque d'un fourgon mardi dans l'Eure où deux agents ont été tués. Parmi les avancées obtenues auprès du ministère de la Justice, l'armement des surveillants, le renouvellement des fourgons et la multiplication des auditions en visioconférence pour limiter les transferts de détenus.
La Slovaquie est suspendue au sort de son Premier ministre.
Robert Fico, victime d'une tentative d'assassinat mercredi, toujours dans un état grave. Et depuis, le gouvernement accuse les médias d'avoir contribué à la radicalisation de l'auteur des tirs. Cet homme de 71 ans a dénoncé dans une vidéo un projet de loi du gouvernement pour prendre le contrôle de la télévision et de la radio publique. Et les journalistes slovaques craignent d'être pris pour cible. Reportage de notre envoyé spécial à Bratislava, Valentin Dunat.
Radio Slovensko, krátke správy.
Dans les studios de la radio publique, les mines sont graves et le constat implacable, Kristina Šrenková est présentatrice.
C'est vraiment une terrible nouvelle pour toute la Slovaquie et bien sûr pour nous, les journalistes. Je pense que la situation va empirer. On l'a déjà vu dans la réaction de certains hommes politiques qui nous ont présentés comme des porcs atroces.
En effet, malgré l'appel au calme du gouvernement, certains membres de la coalition se lâche sur les réseaux sociaux. Et la cible idéale, ce sont les journalistes qui osent, par exemple, demander si la sécurité du Premier ministre était défaillante.
Maintenant, après cette attaque, mon sentiment personnel, c'est que la liberté de la presse est morte ce mardi 15 mai.
Sonia Vaisova est la chef des informations internationales à la radio publique.
Nous avons peur désormais. J'ai plein de collègues qui viennent me voir et qui me disent qu'ils ne se sentent plus en sécurité, et ça, c'est à cause des attaques incessantes contre nous.
Pour l'instant, les sessions parlementaires sont suspendues et les salariés de la radio publique ne savent pas quand la loi qui permettra leur reprise en main sera votée.
Valentin Dunat en Slovaquie. En Ukraine, Volodymyr Zelensky redoute une intensification de l'offensive russe jusqu'à Kharkiv. La grande ville est située à 30 km de la frontière dans le nord-est du pays. Les forces de Moscou ont avancé ces derniers jours dans la région. L'Ukraine va continuer à se battre, assure le président ukrainien dans un entretien accordé à l'agence France Presse. Les premières livraisons d'aide humanitaire ont commencé à Gaza via la jetée flottante construite par les États-Unis. Et les combats sont toujours aussi intenses, notamment dans le nord du territoire palestinien. Enfin, l'armée israélienne annonce avoir rapatrié les corps de 3 otages. Ils avaient été enlevés le 7 octobre par le Hamas.
8h09, leur combat a marqué les esprits. C'était il y a 10 ans, celui des salariés de Fralib.
En lutte contre leur propriétaire Unilever, qui voulait délocaliser l'usine des Bouches-du-Rhône vers la Pologne, les salariés ont repris l'activité de conditionnement de sachets de thé sous forme de coopérative. Et la Scopti marche toujours en autogestion. Ils produisent leur propre marque de thé et d'infusion, 1336, comme le nombre de jours de combat. Mathilde Vinceneux.
Dans l'un des couloirs de l'usine, il y a encore une trace de l'époque de Fralib et d'Unilever, l'emblème des infusions éléphants accrochées accrochés au mur à côté des portraits des ouvriers en lutte.
On voit sur les photos qu'on a vieilli. Hein.
Gérard Cazorla, président fondateur de la coopérative Scopti, 10 ans après sa création, c'est pour lui un pari réussi.
Au bout de 10 ans, on est toujours là. Des travailleurs sans patron, donc on a fait un pied de nez, je dirais, au capitalisme. Et en plus, cette année, on va faire un des plus gros chiffres d'affaires qu'on ait fait depuis le début. Entre 4,5 millions et 4,6 millions, quasiment multiplié par 10.
Les sachets de thé de la nouvelle marque 1336 sont fabriqués dans un hangar où flottent des odeurs de verveine, de tilleul, avec les mêmes machines qu'avant, cédées par la multinationale. Rémi Dri les connaît bien. Elle était opératrice avant la lutte, elle est maintenant assistante comptable.
La coopérative a permis une émancipation, donne la possibilité aux salariés d'évoluer.
Sur les 182 salariés que comptait l'usine, il n'en reste aujourd'hui que 34 et chacun a son mot à dire, c'est la force de la coopérative. Mais il y a aussi une faiblesse, explique Gérard Cazorla.
La faiblesse, c'est surtout la commercialisation, puisqu'on est une marque nouvelle qui est mise sur le marché il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, on a un peu de notoriété, mais pas suffisamment encore. On est référencé dans la grande distribution, mais pas encore partout.
Pour faire tourner l'usine, la coopérative est pour l'instant obligée de produire pour d'autres marques, de la sous-traitance qui représente environ la moitié de son chiffre d'affaires.
Mathilde Vinceneux, on reste au bord de la Grande Bleue, direction Cannes et sa mythique croisette en ce premier week-end du Festival du Film. On entre dans le dur de la compétition. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Cannes. Vous enchaînez les projections, 3 films hier en compétition. On commence par le nouveau long-métrage de Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness.
Après, entre autres, The Lobster et Pauvre Créature, le réalisateur grec en remet une couche en termes de provoque et de misanthropie. Pendant 2h45, Lanthimos nous bombarde de sang, de vomi, de sexe et d'humiliation en tout genre. 3 histoires s'enchaînent dans différentes villes américaines, avec les mêmes acteurs, Emma Stone, Margaret Qualley, Willem Dafoe, mais qui interprètent des personnages différents. Bien que tape à l'œil, la mise en scène est efficace, mais l'ensemble manque cruellement de fond. Que veut nous dire Lanthimos avec cette avalanche d'histoires gore et glauques ? Mystère.
Alors vous avez été plus convaincu, Alexis, par « Au Canada » de Paul Schrader.
Oui, cette figure du nouvel Hollywood, scénariste de Taxi Driver et de Raging Bull, adapte ici un roman de Russell Banks, l'histoire d'un documentariste américain réfugié au Canada après avoir refusé de s'engager dans l'armée pour la guerre du Vietnam. Un rôle interprété par le revenant Richard Gere, que Schrader retrouve presque un demi-siècle après leur collaboration sur American Gigolo. Au Canada est un film crépusculaire, impeccablement filmé.
Mais votre coup de cœur, Alexis, c'est le 3e film, 3 kilomètres avant la fin du monde.
Un film roumain tourné dans un petit village de l'estuaire du Danube. Un adolescent y est violemment frappé après avoir été aperçu au bras d'un autre garçon. Ses parents, mais aussi les autres villageois, le curé et même la police vont tout faire pour étouffer l'affaire, l'accusant même d'être responsable de son agression. Le jeune réalisateur Emmanuel Parvou a la bonne idée de filmer ce drame social à la manière d'un thriller, confirmant la belle vitalité du cinéma roumain.
Merci Alexis Demeyer depuis Cannes, avec ce soir Jacques Audiard sur les marches.
Inter, 8h12, le journal des sports.
Et c'est Jérôme Val qui nous a rejoint ce matin. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Les joueuses de Lyon ne laissent encore une fois que des miettes en première division féminine.
Oui, la nouvelle formule du championnat avec des play-offs et une finale n'y aura rien changé. Lyon remporte encore le titre. Victoire hier 2-1 contre le Paris Saint-Germain devant un peu plus de 15 000 spectateurs au Groupama Stadium dans la banlieue de Lyon. 17e titre des Fenotes, le surnom des Lyonnaises qui décidément ont un appétit d'ogre, Nicolas Péonnet.
Toujours la même musique lorsque l'on parle de foot féminin en France. À la fin, ce sont les Fenotes qui gagnent. Et pour elles, toujours la même saveur. Ce 17e titre de l'Olympique lyonnais, le 17e aussi de sa capitaine Wendy Renard, est fêté comme le premier.
Ah, on s'en lâche jamais, hein. C'est le premier de l'année. Hein. L'année 2023-2024, c'est le premier.
Des Lyonnaises sans partage, idéalement lancées en première période par l'ouverture du score de l'internationale Delphine Cascarino, elle aussi loin d'être rassasiée.
Peu importe que ce soit 17, 20 ou 30, j'espère à l'avenir, mais en tout cas, on sera toujours fiers de gagner le championnat de France.
Un championnat de France, nouvelle formule, où le titre s'est joué sur un match avec le retour des play-offs. L'OL a gagné, mais l'OL aurait pu tout perdre malgré une domination tout au long de la saison. Alors pour la coach Sonia Bonpastor, la victoire finale n'efface ni la polémique ni l'amertume.
Honnêtement, vous imaginez là, en cas de défaite, vous avez une saison où vous avez survolé et vous allez dire à vos joueuses, bah non, c'est pas vous la meilleure équipe de France. Non, ça marche pas en fait. Faut trouver une autre solution vraiment.
La Ligue des Champions, elle, n'a pas changé de formule. Les Lyonnaises tenteront samedi prochain de la remporter pour la 9e fois.
Et ce sera face à Barcelone. Scène de joie donc hier à Lyon. La Liesse aussi à Angers. On est en Ligue 1, ont chanté les joueurs du SCO. Dans le vestiaire, Angers retrouve l'élite un an seulement après la descente. Saint-Etienne, en revanche, devra en passer par les barrages.
Allez, c'est pas encore perdu pour les Verts. Et en top 14 de rugby, on est proche du dénouement avec la 24e journée.
Et ça peut tanguer un peu plus pour Montpellier en position de barragiste qui accueille le leader Toulouse cet après-midi. Ce soir, La Rochelle sera opposée à Pau. Les Rochelais bien moins fringants cette saison, même si le pilier international Winnie Antonio veut plutôt voir le verre à moitié plein.
Aujourd'hui, on est dans les 6. On n'est pas mal placé, quoi. On joue pas le maintien. Il faut juste réajuster notre rugby, dominer un petit peu plus devant, et je pense qu'on va retrouver La Rochelle qu'on avait pendant 3-4 ans. Ouais. Peut-être de l'extérieur, on donne une perception qu'on n'est pas bien, mais moi j'ai l'impression qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. Il y a des petits détails à régler, et je pense que ça va être réglé dans la semaine qui arrive. Ouais.
Et Oyonnax qui rencontre Toulon peut être relégué dès cet après-midi. Et puis c'était le record le plus ancien en athlétisme. Tereterai Tupaya a battu hier le record de France du javelot avec un jet à 86,11 m. Il datait ce record de 1980. Le Polynésien a au passage réalisé les minima pour les Jeux Olympiques.
86,11 m, ça doit faire à peu près 10 fois, la longueur de ce studio. Merci Jérôme Val.
Dans le journal de Corinne Audouin, il est 8h15.
La météo avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Magali Rochereau, le contexte est toujours tendu sur les départements du Nord-Est.
Oui Marion, la vigilance est rouge crue en Moselle, ça concerne la rivière de l'Allier et elle reste orange sur les Vosges, la Meurthe-et-Moselle et le Bas-Rhin. Ailleurs, l'instabilité est toujours de mise et que viennent les averses ce matin entrecoupées d'éclaircies sur l'Occitanie, l'Auvergne et la vallée du Rhône. Le Sud-Est est épargné, vous vous réveillez au soleil de la Corse jusqu'aux Alpes du Sud et à la Provence et il demeure jusqu'à cet après-midi tandis que des salves de pluie orageuses tombent des Pyrénées au nord de l'Auvergne ainsi que de la Bretagne à l'Alsace.
Et l'ambiance est de saison côté température ?
Oui, matin comme après-midi, pas d'évolution. Vous vous réveillez avec 14 degrés dans la capitale et les minimales vont de 7 à 11 degrés en général. Les maximales atteignent 17 à 22. Cet après-midi, 20 degrés sont attendus à Angoulême, Rennes et Orléans, 22 à Strasbourg et jusqu'à 25 à 27 degrés en Corse.
Merci Magali Rochereau. Inter, 8h16.
Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter.
Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick.
Bonjour.
Ce matin, Gallagher, vous vous intéressez sur ce port flottant construit par l'armée américaine au large de la bande de Gaza. Et vous nous dites que c'est à la fois un exploit logistique et une absurdité géopolitique.
Commençons par la prouesse technique. Pour acheminer l'aide par la mer vers Gaza, il faudra passer par deux ponts. Le premier est flottant. Il est à quelques milles nautiques de l'enclave palestinienne. C'est une sorte de grande plateforme. C'est à elle que viendra s'amarrer notamment un imposant navire de la marine américaine, le Sagamore. C'est son nom et retenez-le parce que je vais vous en reparler. Son bord, donc, des tonnes d'aide humanitaire. Sur la plateforme flottante, le personnel va décharger l'aide et la transférer dans des camions prépositionnés. Ces camions vont ensuite monter à bord de bâtiments de débarquement. Ces bateaux-là, ils vont naviguer vers une deuxième structure. Celle-là, longiligne, est rattachée à la bande de Gaza. Une grande jetée, en somme, que les camions vont emprunter. En théorie, ils iront ensuite livrer l'aide aux populations dans le territoire assiégé par l'armée israélienne.
Pourquoi vous dites en théorie, Gallagher ?
Votre question, Marion, me permet de souligner les aspects pour le moins problématiques de ce chantier colossal. 2 mois et demi pour assembler ce puzzle logistique, un coût estimé à 320 millions de dollars, des centaines de soldats américains mobilisés. Le dispositif commence à Chypre, l'aide devra y être envoyée, elle y sera inspectée par Israël avant d'être chargée donc puis transportée jusqu'à Gaza. Le Pentagone dit qu'il vise d'abord 90 camions par jour puis 150 à terme. Les officiels américains reconnaissent que c'est très insuffisant, inférieur aux 500 camions par jour demandés par les Nations Unies. Ces mêmes officiels affirment que ce dispositif ne doit pas remplacer les points de passage entre Israël et Gaza ou entre l'Égypte et Gaza. Ça, c'est l'option terrestre. De fait, ils viennent de la marginaliser. Ils ont également réduit les largages aériens, peut-être parce que certains d'entre eux ont tué des Gazaouis en leur tombant dessus. Les États-Unis vont donc passer par la mer comme s'ils opéraient en territoire hostile. Israël est pourtant le meilleur allié des États-Unis au Proche-Orient.
Et il faut prendre en compte de très nombreux aléas, Gallagher.
À commencer par le climat, Ali. Tout devait démarrer la semaine dernière. Mais une mauvaise météo a fait tomber ses plans à l'eau. Le Sagamore, l'imposant navire dont je vous parlais, a dû appareiller dans le port d'Ashdod avec des tonnes d'aide à son bord, en attendant que la mer se calme. Ashdod, cette ville dans le sud d'Israël, n'est pourtant qu'à 30 km de la bande de Gaza. 30 km, notamment du point de passage d'Erez, celui que les Américains ont demandé aux Israéliens de rouvrir pour laisser passer de l'aide. Autre aléa, l'essence, depuis qu'Israël est entré à Rafah, cette denrée est rarissime dans l'enclave. Il faudra donc alimenter les camions en carburant, faute de quoi ils auront bien du mal à amener cette aide. Enfin, la sécurisation de cette opération n'est pas une mince affaire. Le Hamas, qui a revendiqué des tirs de roquettes contre l'un des points de passage, celui de Kerem Shalom, pourrait essayer de s'en prendre aux installations et aux soldats américains. Il les accuse d'être complices d'Israël. Quant aux garanties de sécurité pour les camions, il faut se rappeler qu'ils vont suivre à peu près le même chemin que le convoi de l'ONG américaine World Central Kitchen, dont on a beaucoup parlé au début du mois dernier. Malgré la coordination avec l'État hébreu, l'armée israélienne l'avait ciblé, tuant 7 de ces humanitaires qui distribuaient de la nourriture.
Et donc, comment expliquer les décisions de l'administration américaine sur ce dossier, Gallagher ?
Joe Biden, Marion, pratique un en même temps géopolitique. Un jour, il marque sa désapprobation face à la perspective d'une opération de grande envergure à Rafah en suspendant l'aide militaire. Une semaine plus tard, il approuve un nouveau paquet d'armes pour Israël d'une valeur $1 milliard selon plusieurs sources. Il veut satisfaire une partie de sa base électorale qui manifeste sur les campus américains, mais sans irriter les éléments conservateurs du Parti démocrate. Eux désapprouvent ces rassemblements. Il fournit de l'aide aux uns et des armes aux autres. En pleine campagne pour sa réélection, le président sortant a besoin que la guerre contre Gaza se termine vite. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a visiblement intérêt à ce qu'elle se prolonge. À défaut de vouloir ou de pouvoir imposer une solution politique au Proche-Orient, Joe Biden en fait une question de logistique.
Merci Gallagher Fenwick, c'était géopolitique et on restera dans la région, à Gaza, l'aide humanitaire, les questions qui se posent autour de l'agence de l'ONU avec notre invité dans le grand entretien.
France Inter, 14h, Emmanuel Kérad.
Ce samedi, nous sommes à Saint-Malo au festival Étonnant Voyageur pour une séquence spéciale en extérieur qui va vous faire voyager et avec Philippe Torreton et Zineb Mekouar en studio.
La librairie francophone, tous les samedis à 14h sur Inter. France Inter, partenaire de Marcello Mio, une comédie de Christophe Honoré, en compétition officielle au Festival de Cannes.
J'ai encore rêvé de mon père cette nuit.
Chiara est actrice, elle est la fille de Marcello Mastroianni, et le temps d'un été, elle se raconte qu'elle devrait plutôt vivre la vie de son père.
C'est incroyable. Qui t'a fait ça? C'est pour des photos?
Marcello Mio, avec Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Fabrice Lucchini, Nicole Garcia.
Vous connaissez Marcello?
C'est quoi ces conneries, gars?
Nicole, c'est Marcello, attention.
Au cinéma le 21 mai, un film France Inter.
8h22.
France Inter. Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
L'accusation a provoqué un coup de tonnerre. C'était fin janvier. Le gouvernement israélien affirmait que des collaborateurs de l'UNRWA avaient participé au massacre commis par le Hamas. Dans le grand entretien ce samedi avec Marion Lourd, notre invité est à la tête de l'agence de l'ONU qui aide les réfugiés palestiniens. Sa parole est rare. Comment poursuivre l'aide sanitaire, sociale, éducative, humanitaire pour près de 6 millions de Palestiniens? La survie de l'organisation elle-même est-elle en péril? Philippe Lazzarini répondait à nos questions hier après-midi.
Le 6-9 sur France Inter.
Le commissaire général de l'UNRWA est l'invité de France Inter. Bonjour Philippe Lazzarini.
Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en duplex depuis Amman en Jordanie. C'est là qu'est le siège de l'agence de l'ONU d'aide aux réfugiés palestiniens que vous dirigez. Amman, la capitale jordanienne, elle est à peine à 145 km de la bande de Gaza et pourtant c'est tout un monde qui vous sépare. Vous avez vos équipes sur place. Commençons par la situation humanitaire à Gaza. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez, notamment de la région de Rafah, Philippe Lazzarini?
Depuis que l'offensive a commencé le 6 mai, nous estimons qu'à nouveau Plus de la moitié de la population se retrouve forcée à être sur les routes. Plus de la moitié de la population de Rafah s'est rendue dans les régions centrales. Mais vous avez aussi des combats actifs dans le nord de la bande de Gaza, où on estime que plus de 100 000 personnes sont également sur les routes et ont quitté la région de Jabalia.
On a entendu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou estimer que la catastrophe humanitaire à Rafah avait été évitée par Israël. Il affirmait que près de 500 000 réfugiés avaient évacué la zone des combats. Est-ce que l'aide humanitaire distribuée par votre agence peut encore aujourd'hui leur parvenir ?
Bon, premièrement, la catastrophe humanitaire n'a pas été évitée. C'est une véritable catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux. Si vous regardez le niveau de déplacement de la population, le nombre de personnes qui ont été tuées, le nombre d'enfants qui ont été tués, si on regarde le niveau de destruction, et aujourd'hui, effectivement, avec la nouvelle offensive qui est en train de se dérouler à Rafah, nous avons à nouveau environ la moitié de la population qui se retrouve à nouveau sur les routes, mais ils n'ont nulle part où aller, à part dans des endroits qui sont complètement détruits ou dévastés.
Et justement, Philippe Lazzarini, votre travail à vous, c'est notamment de leur acheminer de l'aide à ces réfugiés. Est-ce qu'avec cette offensive terrestre, vous parvenez à le faire, ce travail ? On disait que les États-Unis avaient achevé la construction d'une jetée provisoire sur la côte de Gaza pour acheminer de l'aide. Est-ce que ça vous permet, malgré tout, d'intervenir auprès de ces populations ?
Bon, la jetée provisoire sera opérationnelle dans les jours à venir. Je crois qu'un premier bateau a été acheminé aujourd'hui. Nous allons voir si oui ou non nous pouvons bouger en fait l'aide humanitaire qui arrive dans le reste de la bande de Gaza. Mais en réalité, en raison des combats actifs, il est à peu près impossible de bouger. Et en plus de ça, la plupart des points de passage, et notamment celui de Rafah et de Kerem Shalom, qui ont été les principaux jusqu'à présent, se trouvent aujourd'hui dans une zone de combat. Et dans ces conditions, nous ne pouvons effectivement pas acheminer l'aide. Notre crainte, c'est que tous les efforts de ces derniers mois risquent d'être renversés et que nous avons réussi à contenir la faim d'une partie puisqu'elle se répandait dans la bande de Gaza. On a réussi à arrêter en fait cette progression, mais c'est aujourd'hui les agents des Nations Unies, dont le programme alimentaire mondial que l'ONU, n'ont plus de stock et nous n'avons plus d'aide qui entre dans la bande de Gaza.
Plus d'aide qui entre dans la bande de Gaza. Israël annonçait avant-hier que son armée allait intensifier ses opérations au sol. C'est ce que déclarait le ministre de la Défense. Que redoutez-vous outre la famine ?
Premièrement, on redoute un nouveau carnage. On estime plus de 35 000 personnes qui ont été tuées depuis le début de la guerre de 7 octobre. Avec la poursuite des combats et notamment à Rafah, où nous avons toujours des centaines de milliers de personnes qui se trouvent, eh bien nous redoutons que, en plus de la famine et notre incapacité à pouvoir apporter de l'assistance, eh bien que des gens continueront de mourir, non seulement en raison des combats, mais aussi également en raison du manque d'assistance.
Mais forcément, vous intervenez dans la bande de Gaza, qui est largement tenue par le parti, par le mouvement islamiste Hamas. Vous n'êtes jamais forcé, vous, l'UNRWA, de faire des compromis avec cette organisation ?
Écoutez, lorsqu'il s'agit de l'aide humanitaire, l'UNRWA distribue directement aux populations, directement dans nos abris. Nous avons eu jusqu'à 1 million de personnes qui se trouvaient dans nos écoles, dans nos centres de santé. Et cette assistance humanitaire délivrée par l'UNRWA et les autres agences des Nations Unies est allée directement auprès des personnes dans le besoin.
L'UNRWA est pointée du doigt depuis le 26 janvier. Votre agence est mise en cause. Elle serait infiltrée par des membres du Hamas, selon Israël. Le gouvernement israélien affirme qu'au moins 19 employés de l'UNRWA auraient directement participé au massacre du 7 octobre. 1650 d'entre eux seraient membres du Hamas. Comment est-ce que vous recevez cette accusation de complicité avec le mouvement terroriste et que répondez-vous à ceux qui vous en accusent ?
Nous prenons toutes les allégations très au sérieux. Rappelez-vous, lorsque les allégations sur les 12 premiers employés qui auraient participé au massacre du 7 octobre, nous avons pris des mesures immédiates. La première, de les licencier. La deuxième, de mener une enquête en appelant le gouvernement israélien à coopérer. Et en parallèle de ça, nous avons également commissionner une revue, en fait, de tous les systèmes de gestion des risques de l'agence, qui est en fait est une revue qui a été menée par l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
On va y venir justement, Philippe Lazzarini, parce qu'il y a ce licenciement immédiat de 12 employés incriminés en janvier. Vous avez agi vite. L'UNRWA a mis en place une enquête, mais où en sont les conclusions? Est-ce que vous avez donc constaté que certains de vos employés étaient des membres du Hamas qui avaient participé au massacre du 7 octobre?
Donc, premièrement, l'enquête est menée par un organe totalement indépendant de l'UNRWA pour l'instant. Mais sur les 19 membres accusés, une personne a été complètement blanchie et quatre personnes, les enquêtes ont été mises en veilleuse parce qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux et à ce stade, les informations ne sont pas suffisamment crédibles. Les enquêtes, par contre, continuent pour 14 autres personnes.
L'UNRWA est quand même un des premiers employeurs de la bande de Gaza. Vous employez 13 000 personnes. Quel processus vous avez pour sélectionner ces personnes strictement pour être sûr justement que parmi elles, il n'y a pas des terroristes potentiels, des membres du Hamas?
Écoutez, nous avons dans la bande de Gaza 13 000 employés. Dans l'ensemble de la région, nous avons 30 000 employés. Ce sont des employés qui sont assimilés à des fonctionnaires publics. Nos critères d'engagement sont les mêmes que n'importe quelle autre agence des Nations Unies. C'est basé sur le professionnalisme, mais également on s'attend de la part de chacun des employés qu'ils se comportent en ligne avec les principes des Nations Unies. Et par exemple, nous ne tolérons pas dans notre organisation un conflit d'intérêts où un employé aurait une activité politique publique et en même temps continue d'être un employé de l'UNRWA.
Mais comment être sûr que personne ne passe à travers les mailles du filet?
Écoutez, je peux vous poser la même question. Comment peut-on être sûr que tous les fonctionnaires en France ne passent pas à travers les mailles du filet? Si on a une situation où une personne a passé à travers les mailles du filet, eh bien, nous avons nos mécanismes internes pour gérer toute violation possible.
Mais admettez quand même que la situation est différente ici en France. Au-delà du 7 octobre, c'est une enquête du magazine Le Point qui a paru cette semaine. Au-delà du 7 octobre, certains s'inquiètent de l'influence réelle et profonde du Hamas parmi les 30 000 employés qui sont déployés dans les territoires palestiniens et dans la région. Et le magazine soulève notamment le cas, je cite, d'employés du personnel de votre agence qui expriment publiquement leurs opinions politiques sur les réseaux sociaux, de livres scolaires au contenu problématique et utilisé dans certaines de vos écoles. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ça justifie de ne pas continuer à vous financer, à financer l'UNRWA?
Écoutez, il faut faire la différence entre un comportement individuel et la politique de l'agence. Nous avons des politiques extrêmement strictes en matière d'utilisation des réseaux sociaux. Nous avons également une politique extrêmement stricte avec des directives strictes en matière d'enseignement dans nos écoles. À chaque fois qu'un cas nous est rapporté, nous allons en fait ouvrir une enquête interne et suivant en fait la gravité du comportement ou de la nature en fait de la violation des règles internes, eh bien, des mesures vont être prises qui peuvent aller jusqu'au licenciement.
Philippe Lazzarini, depuis le 26 janvier et les accusations concernant vos membres, il y a plusieurs bailleurs de fonds qui avaient gelé leur financement, notamment les États-Unis qui ne les ont toujours pas dégelés. L'Allemagne, en revanche, après le rapport Colonna, a décidé finalement de vous redonner ces fonds. Comment vous vous situez financièrement aujourd'hui? Est-ce que l'UNRWA a suffisamment d'argent pour assurer ses missions?
Premièrement, il est vrai qu'après le 26 janvier, nous avons eu jusqu'à 16 pays donateurs qui ont temporairement suspendu leurs fonds. La bonne nouvelle aujourd'hui est basée en fait sur tous les systèmes de gestion des risques qui ont été mis en place par l'organisation. La plupart des pays donateurs sont revenus. La grande exception aujourd'hui, les États-Unis et le Royaume-Uni sont les deux grandes exceptions. Les États-Unis ont indiqué que cette suspension durera jusqu'au mois de mars 2025 et le Royaume-Uni attend encore les conclusions de l'enquête sur les 19 employés.
Et donc, je repose ma question, est-ce que l'UNRWA aujourd'hui a les moyens d'assurer ses missions et jusqu'à quand?
Alors, nous avons un manque à gagner extrêmement important venant de la part des États-Unis, plus de 160 millions de dollars. Notre situation financière est un peu meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était au mois de février. La bonne nouvelle, c'est qu'un certain nombre de pays ont décidé d'augmenter leur contribution. D'autres pays qui ne contribuaient pas à l'organisation ont décidé de contribuer à l'organisation. Et aussi, j'aimerais souligner l'incroyable solidarité d'individus à travers le monde qui ont également contribué à l'agence. Et depuis le 7 octobre, nous avons, à travers la récolte de fonds privés, obtenu plus de 120 millions de dollars.
Quels pays, quels individus ?
Ce sont des individus comme vous et moi, principalement venant des États-Unis, d'Allemagne, du Golfe et aussi de la Grande-Bretagne.
L'Allemagne qui est le deuxième bailleur de fonds le plus important de l'agence et qui a repris donc ses versements de dons après les accusations d'Israël visant votre agence et la publication du rapport. Il y a quelque chose qui est très particulier à votre agence, l'UNRWA, justement, et dont on voulait parler avec vous pour essayer d'y voir plus clair, monsieur Lazzarini, c'est qu'à la différence d'autres réfugiés dans le monde, les Palestiniens qui ont été expulsés en 1948, qui ont quitté leur terre, revendiquent ce qu'on appelle un droit au retour. C'est aussi ce que leur reconnaît une résolution 194 de l'ONU. Ceux qui ne le souhaitent pas, ceux qui ne souhaitent pas revenir, devront être dédommagés. Comment expliquer cette exception-là ?
Premièrement, ce n'est pas une grande exception en tant que telle, parce que si vous êtes réfugié d'un autre pays, il y a trois possibilités pour avoir une solution durable. La première, c'est l'intégration dans le pays dans lequel vous vous retrouvez. La deuxième, c'est de tout simplement d'avoir un pays d'accueil, et là, notamment l'Europe et les États-Unis. Mais principalement, les réfugiés attendent aussi le retour, attendent la fin du conflit. Et c'est la raison pour laquelle vous avez d'autres situations où vous avez des réfugiés d'une génération à l'autre. Regardez l'Afghanistan, ça fait plus de 30-40 ans. Regardez les réfugiés sahraouis, ça fait plus de 50 ans. Donc en fait, il y a d'autres situations où effectivement on est réfugié en fait d'une génération à l'autre aussi longtemps que une solution durable n'a pas été trouvée. Dans le contexte de l'UNRWA, nous n'avons pas pour mandat en tant qu'agence de rechercher une solution durable parce que l'Assemblée générale et les États membres ont décidé que cette solution durable sera uniquement une solution politique et entre-temps, notre agence devra investir dans le développement humain des réfugiés palestiniens.
Et ne plus être uniquement dans le secours et l'aide d'urgence, même si cette urgence peut durer des décennies. Il y a la question démographique qui est au cœur du conflit israélo-palestinien. Ils étaient, les Palestiniens, 700 000 réfugiés en 1949. Près de 6 millions aujourd'hui sont éparpillés au Proche-Orient. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible d'aboutir à une solution négociée sur ce sujet, alors que c'est vraiment l'un des points de divergence les plus profonds ?
Et la communauté internationale est très claire. Elle ne voit pas d'alternative à la solution à deux États. Et personnellement, je ne vois pas d'alternative à ces deux peuples à devoir vivre ensemble. Et pour pouvoir vivre ensemble, effectivement, il faut que chacun de ces peuples ait son propre État.
Alors justement, Philippe Lazzarini, vous, au moment de votre prise de fonction il y a 4 ans, vous disiez que vous espériez être le dernier commissaire général de l'UNRWA parce que la paix, en fait, rendrait votre fonction inutile. Vous y croyez encore, à cette solution à deux États ? Est-ce que vous pensez que la paix est encore possible ? Vaste question.
Et il faudra beaucoup d'efforts pour réaliser la paix, mais peut-être aussi, avec toute catastrophe, il y a peut-être une opportunité qui va revenir. Cette politique que l'on appelle en anglais du containment a aussi montré ses limites. Et j'espère qu'avec ce qui vient de se passer à Gaza, avec la polarisation actuellement entre les Palestiniens et les Israéliens, et bien que la communauté internationale décidera que ça devient une priorité d'investir dans un processus qui va aboutir à cette paix qui est la seule solution pour la région.
Vous espérez, mais qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez ?
Écoutez, pour l'instant, il y a beaucoup de ressentiments, il y a beaucoup de traumatismes. On va devoir investir énormément parce que si on ne le fait pas, la paix va continuer de s'éloigner, et si elle continue de s'éloigner, eh bien, le risque de guerre pourrait se répandre dans le reste de la région.
Philippe Lazzarini, vous êtes le premier responsable international à vous être rendu à Gaza après le début de l'offensive israélienne. Vous vous y êtes rendu plusieurs fois. Aujourd'hui, les autorités israéliennes vous interdisent d'accéder à la bande de Gaza ?
Les deux dernières fois que j'ai demandé à me rendre dans la bande de Gaza, effectivement, j'en ai été empêché. Donc, je n'ai plus obtenu d'autorisation de me rendre dans la bande de Gaza depuis le mois de mars.
Israël répondait hier devant la plus haute juridiction de l'ONU, la Cour internationale de justice, aux accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud. Est-ce que ce terme de génocide, vous le reprenez à votre compte ?
C'est un terme qui sera décidé par la Cour. Pour l'instant, nous ne parlons pas de génocide au sein de l'UNRWA, mais nous parlons d'une situation humanitaire apocalyptique, effectivement, qui va avoir des conséquences durables. Mais je pense que la qualification de ce qui se passe appartient à la Cour de justice internationale.
Et vous, Philippe Lazzarini, vous vivez entre chez vous, entre la Suisse et Amman, où se trouve le siège de l'UNRWA. Quand vous voyez les mobilisations de soutien à Gaza, un peu partout dans le monde, dans certaines universités en France, aux États-Unis, ailleurs, quel regard vous portez là-dessus ?
Alors, deux éléments ici. Le premier, c'est il est important que cette solidarité soit exprimée auprès des Palestiniens. Il est vrai qu'au début de la guerre, il y avait une impression de la part des Palestiniens que cette même communauté internationale avait tendance à appliquer les droits de l'homme, le droit humanitaire international à géométrie variable et que ça ne s'appliquait pas forcément pour eux. Donc en ça, ces mouvements de solidarité sont la bienvenue. Mais le deuxième élément, et c'est ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que la polarisation et les divisions que l'on voit ici au Proche-Orient sont en train de se répandre en fait dans d'autres pays, y inclus en Europe. Et je pense que c'est aussi ce qui est à la clé de la déhumanisation du conflit que l'on observe aujourd'hui, parce qu'il y a une incapacité à exprimer une empathie mutuelle. Et mon message à tous ces mouvements, que ce soit pro-israélien, pro-palestinien, c'est à chaque fois de dire, essayer de comprendre en fait la tragédie de l'autre. Et si on n'arrive pas à comprendre la tragédie de l'autre mutuellement, eh bien je pense que on va continuer sur ce chemin de la polarisation et de la déhumanisation.
Est-ce que la communauté internationale, vous avez employé l'expression, est-ce que la communauté internationale, ça existe encore, Philippe Lazzarini ?
Elle existe encore, mais malheureusement, elle n'est plus monolithique. Elle est également divisée, et elle est divisée sur ces questions-là.
Et elle est impuissante ?
En raison de ces divisions, elle est devenue impuissante, et elle est impuissante parce qu'elle n'utilise pas toujours tous les leviers à disposition.
On le disait tout à l'heure, Philippe Lazzarini, vous avez fait un grand tour en fait pour retrouver des financiers, pour les convaincre de vous redonner des fonds pour pouvoir faire fonctionner correctement l'agence et apporter de l'aide donc aux Palestiniens de la bande de Gaza. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui le plus ? Quel est votre message pour que l'UNRWA puisse faire correctement son travail ?
Je pense que l'on doit protéger le mandat de l'UNRWA. Mon message est de dire, non seulement nous avons besoin de l'UNRWA aujourd'hui pour répondre à une crise humanitaire sans précédent, mais nous avons également besoin de l'UNRWA demain, s'il devait y avoir, et j'espère qu'il y aura un cessez-le-feu à un moment donné, et pendant cette heure, entre le cessez-le-feu jusqu'au jour où il y aura une reconstruction, il y aura un énorme besoin, en fait, de s'occuper des centaines de milliers d'enfants traumatisés qui vivent aujourd'hui dans des grabats, et il y a un impératif à les ramener dans un environnement éducatif, parce que si on ne le fait pas, eh bien on va tout simplement semer les graines de plus de violence, plus de haine, plus d'extrémisme à l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle je demande également aux États membres de protéger politiquement le mandat d'UNRWA, et que si cette même communauté internationale est véritablement engagée pour trouver une solution politique, le caractère temporaire que cette agence a eu pendant plus de 70 ans peut redevenir réellement temporaire.
Est-ce que vous avez le sentiment, Philippe Lazzarini, aujourd'hui, d'être un porte-voix des réfugiés palestiniens ou de ceux qui sont piégés dans la bande de Gaza ?
Ma fonction dans ce sens est privilégiée, mais me donne aussi justement le devoir de parler de parler pour les réfugiés palestiniens, pour les gens qui se trouvent aujourd'hui dans la bande de Gaza, effectivement.
Une dernière question, Philippe Lazzarini. Vous avez 60 ans, vous êtes ce qu'on appelle un vieux loup de mer des tragédies internationales. Vous avez été dans des zones de conflit aussi différentes que le Sud-Soudan, le Liban. Vous avez été au Rwanda, en Angola, en Bosnie. Ce que vous vivez ou ce que vit aujourd'hui l'UNRWA, est-ce que c'est ce que vous avez connu de pire ou est-ce que c'est comparable à d'autres situations que vous avez vécues par le passé ?
Non, c'est définitivement ce que j'ai connu de pire en 35 ans de carrière dans des zones de conflit ou post-conflit. J'ai rarement vu une destruction systématique d'une société aussi rapide que celle qui s'est produite à l'instant sous nos yeux.
Merci infiniment Philippe Lazzarini d'avoir été l'invité de France Inter en duplex avec nous depuis Amman en Jordanie.
Merci à vous.
France Inter, la radio du cinéma, s'installe à Cannes pour vous faire vivre le festival.
10 jours de films, 10 jours d'émotions, 10 jours de découvertes.
Samedi 10h, on aura tout vu.
En direct du Festival de Cannes.
Christine Masson et Laurent Delmas.
À côté de quelques vétérans.
De belles promesses de cinéma, ces nouveaux talents seront avec nous.
France Inter aime le cinéma.
À tout à l'heure.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Magali Rochereau, toujours de l'air froid en altitude sur le proche Atlantique.
Oui, la situation reste identique avec cette goutte froide sur le nord Atlantique. Ah. La goutte froide, Ali, c'est de l'air froid isolé en altitude qui soulève l'air chaud et provoque ainsi la pluie.
Merci, c'est beaucoup plus clair.
Du Midi-Pyrénées au Massif central, on a toujours ces remontées pluvio-instables, orageuses et ailleurs des averses et un ciel nuageux, excepté sur le pourtour méditerranéen et la Corse. Des averses aussi sur la façade atlantique, mais moins dans l'intérieur en allant vers l'est du pays. Côté température, elle reste stable. Vous vous réveillez avec 13 degrés à Lille comme à Toulouse. Il fait 14 à Paris ce matin et ça grimpe du côté du nord-est du pays.
Merci Magali Rochereau, il est 8h46 sur Inter.
France Inter, Marion Lourd, Ali Badou, le 6-9.
Le carrefour de la matinale avec Karine Bécard, Charles Pépin, Christophe Bourseiller. Bonjour les amis.
Bonjour.
À suivre dans le prochain quart d'heure, la question philo, Charles Pépin, autour de quel thème ?
Est-ce que la vie a du sens ?
Pourquoi le monde vous rend-il fou ce matin, Christophe ?
Bah écoutez, moi je me demande justement si ce monde est un canular.
Mais d'abord, les choses sérieuses et les faits, la revue de presse, Karine Bécard.
Et vous nous emmenez, Karine, pour commencer en Camargue ?
Oui, pour observer, si vous me le permettez, des flamants roses qui sont d'ailleurs assez blafards, vous verrez sur les photos du journal Libération de ce matin. Libé nous installe au bord de l'étang de Vacarès, autrement dit en plein cœur du parc naturel régional de Camargue. 100 000 hectares, 75 km de façade maritime, ce qui signifie que ce parc est très directement ouvert, vous le savez, sur la mer Méditerranée. Et c'est bien là tout le problème, parce que les eaux montent inéluctablement sous l'effet du réchauffement climatique et ce paradis de biodiversité pourrait bien tôt ou tard se retrouver totalement submergé. Dans l'étude scientifique que relaie Libération ce matin, on estime que d'ici à 2100, l'eau pourrait monter au mieux de 44 cm, au pire de plus d'un mètre 60. Alors évidemment, ce n'est pas pour tout de suite. 2100, c'est dans 75 ans, mais est-ce que vous imaginez notre flamant rose sur une patte fragile, totalement débordée par autant d'eau? En fait, il ne serait plus capable de se nourrir, de trouver ses petits crustacés dans une eau saumâtre et peu profonde qui ont toujours fait son régal. Cette montée des eaux a déjà commencé d'une quinzaine de centimètres. Inutile de paniquer, mais il est grand temps d'alerter. Et c'est ce que fait ce matin le journal Libération.
Et puis sinon, c'est la Nouvelle-Calédonie qui est toujours à la une de nos journaux.
Et vous verrez sur la première page du Figaro cette photo dans un supermarché avec des rayons pratiquement vides. L'économie au bord du gouffre, titre le journal, qui précise que 80% du circuit de distribution alimentaire, 80% serait d'ores et déjà détruit sur l'île. Cela dit, si vous souhaitez une approche plus politique de la situation, lisez plutôt Libération, l'exécution l'exécutif en force, résume le journal, qui estime que le dialogue est pour l'instant sur la touche, mais la plupart de vos journaux ce matin cherchent surtout une sortie de crise comme Ouest France et comme Le Parisien aujourd'hui en France. Le Parisien, qui s'intéresse aussi à propos de la Nouvelle-Calédonie, aux contradictions du Rassemblement National. Parce que d'un côté, le RN estime aujourd'hui que le gouvernement s'est trompé sur le sujet, qu'il n'aurait pas dû tenter de réformer le corps électoral de Lille avant les Jeux Olympiques de cet été et qu'il aurait mieux valu repousser le vote de cette réforme constitutionnelle. Une réforme pourtant, d'un autre côté, que Marine Le Pen s'est empressée de voter mardi à l'Assemblée avec tous ses députés. Étrange contradiction donc, vous en conviendrez. Un revirement qu'observe ce matin également le Figaro, qui tente, lui, de l'expliquer, de le justifier. Ce n'est pas inintéressant. Et qui mesure surtout le risque politique que prend Marine Le Pen, qui fait mine de tergiverser, qui fait mine de comprendre les indépendantistes, elle, la nationaliste, ce qui pourrait, en tout cas, estime le journal, déboussoler une partie de son électorat, le tout à 3 semaines désormais des élections européennes. Et justement, à 3 semaines de ces européennes, le portrait surprenant à lire dans le Nouvel Obs ce week-end du patron du RN, Jordan Bardella. Portrait dans lequel je découvre que son papa, lui qui ne parle que de sa maman, de son enfance pauvre dans un quartier difficile, eh bien le papa de Jordan Bardella est un chef d'entreprise qui lui a offert voiture à 19 ans et voyage aux États-Unis. Vous verrez, il n'y a pas que cela. Un portrait qui casse le mythe très entretenu de l'ascension sociale réussie. C'est une enquête fouillée signée Pierre-Stéphane Faure qui vient d'en faire un livre, Le Grand Remplaçant, à retrouver donc dans le Nouvel Obs de ce week-end.
Covid, cluster, autotest, tous ces mots, Karine, on les avait presque oubliés.
Oui, et s'ils réapparaissent, cela va, j'espère, vous amuser. Après les 4 concerts à Paris de l'incontournable star de la pop américaine, Taylor Swift. 4 concerts, donc, qui ont eu lieu la semaine dernière. Et depuis, eh bien depuis, des centaines de fans malades se racontent sur les réseaux sociaux. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui revient sur cette mini-épidémie. Et sans vouloir affoler qui que ce soit, c'est vrai que le Covid circule visiblement à nouveau en plein printemps, ce qui confirme d'ailleurs que c'est un virus, contrairement à la grippe, par exemple, qui n'est toujours pas devenue saisonnier. Allez, moins stressant, plus sympathique et même beaucoup plus poétique. Je voudrais vous parler pour finir d'une femme, une femme qui prend soin des autres, qui prend soin de les ouvrir au beau, de les ouvrir à la culture. Cette femme s'appelle Leslie Sicoury. Vous la connaissez peut-être, elle a joué dans quelques films, mais elle prend aussi le temps, parce que pour elle c'est important, le temps d'être une souffleuse d'images. Alors c'est quoi être une souffleuse d'images? Eh bien c'est Télérama qui nous ouvre cette nouvelle perspective ce week-end. C'est quelqu'un qui dans les musées décrit, raconte, fait vivre les tableaux à des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Comment retranscrire avec des mots l'émotion que vous procure un tableau? Eh bien, cela s'apprend. Il faut suivre une formation proposée par une association Souffleur de Sens. On en trouve un peu partout dans les grandes villes de France. Mais attention, cela réclame pas mal de précision et une sacrée dose d'abnégation.
La revue de presse de Karine Bécard, à demain. Et en voilà un autre Souffleur de Sens qui arrive.
À 8h52, la question philo Charles Pépin. Aujourd'hui, Charles, vous avez choisi de répondre à la question que vous pose Marlène.
Bonjour Charles Pépin, merci France Inter pour cette émission. Suite à une conversation avec mon fils de 17 ans, la vie a-t-elle un sens? Lui, il peut lui donner un sens, mais au fond, la vie n'a point de sens. Et j'aimerais bien avoir votre ressenti. Merci beaucoup.
Merci Marlène. La vie a-t-elle un sens?
Eh ben, on Charles. Y va, quoi, samedi matin.
Allons-y.
Cash, la vie a-t-elle un sens? Eh bien, je dirais qu'il y a 3 possibilités. Oui. Premier cas, la vie a du sens. Deuxième cas, la vie n'a pas de sens, mais on peut lui en donner. Troisième cas, la vie n'a pas de sens et on ne peut pas lui en donner.
Alors, commençons par le premier cas, la vie a du sens.
Premier cas, la vie a du sens si l'on est croyant et que l'on pense cette vie créée par Dieu, par exemple. Elle a du sens si on est stoïcien ou spinoziste et que l'on pense le cosmos traversé par une nécessité cohérente et rationnelle. Elle a du sens si l'on est hegelien et qu'on voit cette nécessité cohérente et rationnelle se dérouler avec le temps au travers des siècles. Bref, elle a du sens si l'on pense que l'être a une raison d'être.
D'accord.
Et dans ce cas, nos vies individuelles prennent leur sens de leur inscription dans ce sens supérieur. Mais bien sûr, Vous avez compris, mais l'objection arrive très vite. Dieu ou la nécessité semble souvent absent ou au moins en vacances. Génocide, massacre, pogrom, famine, épidémie. Difficile, devant l'insensé de ces mots non relatifs mais absolus, de continuer à répéter qu'une nécessité supérieure et cohérente est à l'œuvre dans l'histoire. La vie semble plutôt insensée et n'aller nulle part, n'avoir donc de sens, ni au sens de signification, ni au sens de direction.
Autre objection ?
Bien sûr, beaucoup plus simple, sans même aller chercher l'existence du mal radical et de la folie insensée des hommes, la vie est juste la vie. Elle est là par hasard et non par nécessité. Elle résulte d'une simple évolution du vivant. Bref, l'être est, mais sans raison d'être supérieure.
D'accord. Donc là, c'est la vie qui n'a pas de sens. On va essayer de lui en donner deuxième cas.
Exactement. Et c'est ce que veut faire votre fils, Marlène, la réponse d'un humanisme non religieux. Il dit, on va peut-être lui en donner. La vie biologique est juste la vie, mais nous, les humains, nous ne nous contentons pas de vivre. Nous essayons de donner du sens à cette vie.
Et alors, comment est-ce qu'on fait
pour
donner du sens à une vie qui, a priori, n'en a pas ?
Plein de manières. Première idée, l'amour. L'amour n'est pas une nécessité biologique. On peut se reproduire sans s'aimer. Nous pouvons donner du sens à la vie en étant capable d'un amour qui excède les besoins de la vie biologique.
Autre option,
le progrès. Essayer sans cesse de s'améliorer, se battre pour que l'histoire progresse dans le bon sens et pas dans le mauvais. Ce n'est pas facile, mais c'est une manière, ce souci moral ou éthique, de donner du sens à la vie, de donner une direction à nos existences.
Autre possibilité.
Enfin, la liberté.
La liberté.
Pour Sartre, oui, est une manière d'inventer le sens de sa vie. À la base, la vie n'a pas de sens. L'existence précède l'essence, ça veut dire ça. C'est exactement ce que dit votre fils, Marlène. Nous existons avant tout. Avant même que cela ait du sens, nous sommes jetés dans l'existence, jetés dans un monde sans Dieu, et c'est ce que nous allons faire qui va donner le sens de notre existence.
C'est-à-dire nos réalisations individuelles à chacun.
Ou collectives. Notre manière de nous projeter concrètement dans le réel, donner du sens à la vie, c'est alors tout simplement agir, œuvrer, inventer des manières de vivre ensemble, faire des enfants, produire des œuvres. Aucun sens ne nous est donné à la naissance, la vie nous est juste donnée, comme un immense champ du possible, au milieu duquel inventer, petit à petit, action après action, notre liberté.
C'est
votre
beau.
Fils, Marlène, c'est beau, c'est vrai, il est sartrien, et moi aussi, ce matin, j'ai envie d'être sartrien. Troisième option, la vie n'a pas de sens et nous ne pouvons pas lui en donner.
Oui.
Eh bien, on n'a plus le temps et c'est tant mieux, car je n'y crois pas. La politique, l'art, l'amour, l'esprit, la liberté, l'action, le progrès, autant de manières de donner à la vie un sens et peut-être même plusieurs.
Merci Charles Pépin et merci à Marlène pour sa question, c'était passionnant.
Ce monde me rend fou à présent avec vous, oui. Christophe Bourseiller,
ça,
et on démarre avec une voix connue.
Françaises et Français, qui sèment l'illusion, récolte la souffrance. Oui, ivre de ma puissance nouvellement acquise, je vous ai roulé dans la farine. J'ai franchi une ligne rouge.
C'est ce qu'on appelle un deepfake, la voix d'Emmanuel Macron, mais qui est détournée, créée par une intelligence artificielle et qui lui fait dire n'importe quoi. Pourquoi ce deepfake ce matin, Christophe ?
Écoutez, tout simplement, Marion, parce que le deepfake, c'est en quelque sorte le canular des temps modernes. Faire dire à quelqu'un des billes vesées, oui, certes, ça craint, mais cela relève aussi donc de cet art millénaire du canular, ce mot forgé en 1885 pour désigner une mystification parfois plaisante.
Ça, c'est le canular, mais pourquoi nous parler du canular aujourd'hui ?
Parce qu'il m'arrive fréquemment le matin, lorsque j'ouvre les yeux, de me dire « rêvais-je ou vivais-je un canular, Ali ?» Et plus prosaïquement, je viens d'achever un abracadabrantesque livre du rédacteur en chef du magazine de mode Citizen K, Mathias de Bureau, intitulé, le titre est assez joli, Le coup de la tranche de jambon, une anthologie du canular. Alors ce magnum opus a la particularité de rendre hommage aux grands inventeurs de canular qui ont souvent fois été honteusement oubliés par l'histoire, à l'image d'Horace de Vercolles, inconnu au bataillon, ou d'Alain Abel. D'autres amuseurs sont en revanche des personnages importants. Je songe par exemple à Winston Churchill.
Et il y en a eu beaucoup des canulars politiques ?
Alors, moult, Marion, et j'aimerais rendre un vibrant hommage à Alain Abel, justement, dont Mathias de Bureau résume la biographie. Batteur de jazz raté, comique de stand-up à peine reconverti en producteur de flop théâtraux, il a découvert sa vocation à la fin des années 1950. Sa vocation, oui, sa vocation de pitre, de blagueur, de rebelle frivole. Dès lors, Alain Abel, voilà ce qu'il a fait, vous allez tout comprendre, il a lancé une grande campagne d'apparence fort sérieuse contre l'indécence animale.
L'indécence animale.
L'avez-vous remarqué, Ali ? Les chiens, les chats, les oiseaux, les poissons, les homards, les chevaux sont nus.
Ah bah oui.
Ce qui constitue une indéniable atteinte à la pudeur. Et Alanabel va plus loin puisqu'il lance une campagne puritaine contre le voyeurisme ornithologique. Bah, en effet, que font les ornithologues sinon reluquer de petits oiseaux nus? C'est assez dégoûtant.
Même s'ils ont des plumes.
Bah oui, mais ils sont quand même nus. Il existe par ailleurs plusieurs parties canularesques. On a vu en 1928 un certain Paul Duconneau, c'est son vrai nom, se présenter aux élections législatives à Paris. Alors, membre du très inexistant parti de la concentration traditionnaliste, Paul Duconneau prônait le duconisme, bien
logique.
Sûr. Oui, alors, il réclamait surtout la création d'un institut météorologique pour coiffeurs, afin que ceci ait enfin un sujet de conversation avec les clients. Vous voyez, c'est pas idiot, hein. À l'arrivée, Duconneau remporta 132 voix, ce qui lui permit tout de même de mettre en ballotage le député sortant. Vous voyez, Marion, la politique, elle est depuis toujours truffée de canulars.
Alors, quels sont les canulars les plus célèbres?
Écoutez, en deux mots, le roi du genre est sans conteste le cinéaste Alfred Hitchcock, Ali. Un exemple, en l'honneur de la chanteuse de Broadway, Gertrude Lawrence. Il organise un jour un grand dîner dans un excellent restaurant de New York, dont le chef est un ami. Or, les convives, qui sont par ailleurs assis sur des coussins péteurs, humour discutable, ne s'attendent pas à ce qui va leur arriver, je cite Mathias de Bureau, la truite, le poulet, les pêches, la glace, tous les plats sont bleus, jusqu'au petit pain brun qui ne révèle que leur mie bleutée qu'une fois rompue. Vous voyez, ce canular d'Alfred Hitchcock est plutôt surréaliste. Alors, moins célèbre que Hitch, Horace de Vercol est l'inventeur du dîner de cons, puisqu'il organisa notamment un dîner dont tous les invités se nommaient Bottom, c'est-à-dire fond.